Donc, je vais tout de suite donner la parole à François Dos, auteur de nombreux ouvrages, je ne vais pas rappeler toute sa bibliographie, spécialiste de l'histoire intellectuelle à travers notamment l'étude de Michel de Certeau et de Paul Ricoeur, spécialiste aussi d'une réflexion épistémologique sur l'histoire, donc et des intellectuels. À partir de ces travaux, il se situe donc au cœur des problématiques de ce matin.
Merci. Merci pour cette invitation, merci pour cette présentation. Merci pour me donner l'occasion d'intervenir sur ce terrain miné qui est tout à fait central, et pas seulement chez les historiens professionnels, de cette question de histoire et mémoire. Et je voudrais tout de suite mettre l'accent sur la coordination, le « et » entre histoire et mémoire. Je crois que ce qui est important, c'est de penser ensemble ces deux dimensions différentes que sont l'histoire et la mémoire. Nous sommes aujourd'hui une situation qui est une situation de confusionnisme total, de crise publique très grave sur ce rapport et sur cette tension entre histoire et mémoire. On croyait qu'en 2005, nous avions touché le fond. Eh bien, les derniers événements de 2006 nous montrent que, si le pire n'est jamais sûr, nous avons monté encore un cran dans le confusionnisme total de nos décideurs et des politiques sur cette question de l'histoire et de la mémoire, toutes tendances confondues et confondantes. Eh bien, Paul Ricoeur ne croyait pas si bien dire lorsque, dans son ouvrage paru il n'y a pas si longtemps, en 2000, « La mémoire, l'histoire, l'oubli », il disait « Je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli. L'idée d'une politique de la juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués. » 2000. Eh bien, il ne croyait pas si bien dire, car en 2000, nous avions déjà un certain nombre de dysfonctionnements dans ce rapport histoire-mémoire. Ceci connaît une inflation qui ne pouvait pas prévoir au tournant du siècle. Eh bien, il entendait, par cet ouvrage, « Mémoire historique », clarifier, par son intervention, la distinction de deux dimensions hétérogènes l'une à l'autre, la dimension historienne et la dimension mémorielle, sur laquelle je reviendrai, qui est un travail de clarification pour éviter toute crispation, toute confusion, tout repli d'un pôle et l'autre. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans ce que Pierre Nora a qualifié dans le dernier numéro du débat de malaise dans l'identité historique, le débat septembre-octobre 2006. Pour moi, il ne s'agit pas seulement d'un malaise des historiens ou de la discipline. Il s'agit, et je pense que Benoît Falaise a raison, de crise de l'histoire, au sens plus global du terme. Je dirais de crise de l'historicité, de crise de passage peut-être d'un nouveau régime d'historicité, passage d'un régime d'historicité à un autre. En effet, qu'est-ce qui est à la base des crispations actuelles fondamentalement, et la solution évidemment dépasse et de loin la corporation historienne, c'est fondamentalement le rapport entre passé, présent et avenir. C'est incontestablement la crise du futur, c'est incontestablement la crise du projet, c'est incontestablement une dialectique là qui est cassée dans ce rapport passé, présent, devenir, qui fait que notre histoire s'est rabattue sur la mémoire dans une espèce d'indistinction et de confusionnisme total, à faute d'horizon d'attente, faute de projet. Et là, bien sûr, ce que dit mon ami Patrick Garcia sur le chaos mémoriel et l'impossible roman national est tout à fait pertinent dans le cadre de cette analyse de la crise de l'histoire. Rappelons très rapidement, mais c'est des choses que tout le monde sait ici, mais pour la mise, pour le débat, je les rappelle simplement. Par quoi est caractérisée cette crise aujourd'hui? D'une part, donc des débordements mémoriels. Une histoire qui est une histoire aujourd'hui sous pression mémorielle. Pierre Nora lui-même parle, et parlait déjà dans les lieux de mémoire, de tyrannie mémorielle. Il en parle de plus en plus. Avec la judiciarisation du rapport à la mémoire, avec, et c'est ce qui a créé quelques mots historiens justifiés, les poursuites judiciaires à un collègue, Olivier Pétré-Grenouilleux, que tout le monde connaît aujourd'hui, Et puis, bien sûr, ces fameuses lois mémorielles en croissance exponentielle de la loi Guesso en 90, la criminalisation du passé, la concurrence des victimes dénoncée, la victimisation et ses nouveaux héros d'histoire dont vous parlez Benoît Falaise et qui renvoie à l'analyse de Chaumont sur, effectivement, cette question de concurrence des victimes, l'élargissement dans la durée concerné par la rétroactivité juridique de la loi, puisqu'on est passé de 6 ans à 6 siècles aujourd'hui de rétroactivité possible, donc on nage évidemment en plein délire. La loi mémorielle sur les Arméniens 2001 et aujourd'hui avec sa pénalisation 2006, ce qui m'a fait dire à mes nouveaux étudiants qui préparent le SD en CAPES qu'il fallait quand même qu'ils sachent qu'ils s'engageaient dans un métier où ils risquent un an de prison et 55 000 euros. La loi Taubira en 2001. Février 2005, où les programmes reconnaissent en particulier, vous connaissez tous le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, etc. Donc, ces pressions-là, que les porteurs de mémoire entretiennent la fidélité mémorielle, la transmission à la génération montante, vient là, évidemment, que de très légitime. Mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est le fait que triomphe des logiques exclusivistes portées par une absolutisation de la différence de leur groupe, portées par le rejet de l'autre. Ce sont là des télescopages qui conduisent à des télescopages absolument insensés de temporalité entre passé et présent au nom là d'un présentisme. Quand je suis tout à fait fervent de la notion de temps présent, je suis associé à l'Institut qui porte ce nom, et à la fécondité de cette notion, autant évidemment, ce type de présentisme est tout à fait condamnable. C'est le cas, bien sûr, lorsqu'un collectif, celui des Antillais, Guyanais, Réunionnais, assigne en justice Olivier Pétré-Grenouillon, ce collectif avait demandé une sanction exemplaire, et Claudrier, auteur du crime de Napoléon, écrit le livre de Pétré-Grenouillon, paru, je le rappelle, dans la bibliothèque des histoires, relève purement et simplement des tribunaux sous le chef de racisme et d'apologie de crimes contre l'humanité. Henri Rousseau, ancien directeur de l'IHTP, dénonce avec justesse les dangers du présentisme. Comment penser sérieusement que l'on peut réparer les dommages causés par la traite négrière à partir du XVe siècle? En effet, un discours de haine est entretenu, il est revendiqué comme tel. Je voyais dans un colloque la semaine dernière, sur l'identité récit-histoire, organisée à Aix-en-Provence, on nous a fait passer celle qui a renoncé, heureusement, à se représenter au présidentiel, une des chefs du parti des Républicains dit de gauche, à savoir Madame Taubira, qui disait, répondant à une question de Franz-Olivier Gisbert à la télévision, qui disait sa rage, qui disait sa fureur par rapport à la cause qu'elle défendait, des Guyanais, etc., Martiniquais, et elle a précisé, je l'arrose, hein, je l'arrose, pas au sens socialiste du terme, de l'arrose, mais je l'arrose cette haine tous les matins pour qu'elle pousse en moi et qu'elle soit effectivement le plus largement partagée. On est loin, et pourtant c'est loin d'être un européocentriste, on est loin de Frantz Fanon qui disait et qui déclarait dans Peau noire, masque blanc, ne pas se laisser engluer dans les déterminations du passé et être l'esclave de l'esclavage. En voulant, disait Fanon, sortir de l'enfermement, je cite, de la tour substantialisée du passé. En effet, là, on a effectivement un certain délire des politiques. Du côté des politiques et de droite et de gauche, je pense du côté de la droite, évidemment à cette fameuse loi de 2005, et je pense par exemple aux déclarations de celui qui a été le responsable du rapport sur cette présence française en Outre-mer, qui est le député UMP Michel Diefenbacher, qui intervient à l'Assemblée nationale comme suit en 2004 pour louer la ferme volonté de la représentation nationale que l'histoire enseigne à nos enfants dans nos écoles, garde intact le souvenir de l'épopée de la plus grande France. Nous retrouvons là, ça a été dit dans le livre Les Mémoires d'Empire, nous retrouvons là un langage bien connu, colonialiste du XIXe siècle, dont parlera sans doute plus savamment Gérard Noiriel et qu'il connaît bien. Autour des termes d'aventure humaine, d'épopée, de ces hommes et ces femmes partis la main nue, de la plus grande France, voilà que c'est devenu aujourd'hui argument parlementaire et qui a donné lieu à cette loi du 23 février 2005, qui est contrairement à ce que a dit le secrétaire national du Parti Socialiste, François Hollande, qui n'a pas été un incident de parcours. Hein. Lisez ce livre, il est tout à fait remarquable parce qu'il montre la généalogie très longue de cette loi qui a été très longuement préparée. Le député Lionel Lucas ajoute, et ce qui montre que les manuels scolaires qu'on nous renvoie ces trois journées sont tout à fait centrales, ce qui est vrai, dit Lionel Lucas, ce qui est vrai, c'est qu'on pointe de façon la façon dont les manuels scolaires ont tendance à raconter l'histoire de façon partiale et partielle, des livres en circulation ont une vision trop négative sur ce sujet. Colonne. Eh bien, le Parti Socialiste, on l'a vu récemment, ne fait pas mieux avec la pénalisation en octobre 2006, la remet dans une actualité comme ce mois, à toute chaude, du génocide arménien. Comme le dit Pierre Nora dans le débat, à quand une loi sur les Russes blancs contre les crimes communistes, à quand une loi sur les descendants des protestants massacrés par la Saint-Barthélemy, à quand une loi sur les Vendéens décimés, à quand une loi sur les aristocrates guillotinés et à quand une loi sur les albigeois exterminés. Alors, par rapport à cela, évidemment, on peut comprendre l'émoi des historiens. Et les historiens se sont trouvés évidemment au cœur de cette question citoyenne, et ils sont au cœur de leur discipline, c'est-à-dire la quête de vérité, la quête véritative, et se trouvent là, évidemment, mis en cause. D'où une réaction légitime, qui est de réagir dans l'espace public. Et réagir, ça a voulu dire effectivement la création du comité de vigilance pour les usages de l'histoire, dont le président de ce comité est... à nos côtés. Cela a voulu dire la pétition Liberté pour l'Histoire, ça a voulu dire au moins 7 pétitions d'historiens professionnels, des regroupements d'historiens, et puis avec des nuances entre eux, mais concrètement réagissant tout à fait légitimement par rapport à ces mises en cause tout à fait graves. Donc un regroupement des historiens, mais qui se sont regroupés un petit peu sur une base de communauté professionnelle, qui, en même temps qu'elle est légitime, est aussi, il faut en être conscient, et je voudrais aussi insister là-dessus, ce qui sera peut-être l'objet du débat avec Gérard Noiriel, qui est aussi lourde de risques, aussi lourde d'écueils. Lourde d'écueils dont je voudrais évoquer très rapidement, on y reviendra sans doute, car il y a là un risque de repli corporatiste sur, quand on parle de vigilance, je ne veux pas que je sois mon revolver, mais quand on parle de vigilance, je sais que c'est aujourd'hui très à la mode, puisque une candidate à la présidence propose de transformer notre société en société de suspicion généralisée, avec des comités de surveillance partout. Mais il y a là, effectivement, un réel danger. Ne sommes-nous pas sortis, dirais-je, de la société d'ordre. Bon. Et notre modèle est-ce le modèle de l'ordre des médecins. Je suis là très réticent à ce qu'il puisse y avoir, c'est pour ça d'ailleurs que je suis à la fois signataire de la pétition Liberté pour l'Histoire et non membre de cette association non plus, parce que tout ce qui peut se transformer en police de pensée est en effet, au regard de la liberté de parole et de dialogue, un risque, ça ne veut pas dire que les intentions soient mauvaises. Risque aussi, dans ce repli, d'absolutiser la coupure entre histoire et mémoire, c'est-à-dire de casser, de barrer le « et », la conjonction. Alors, je sais bien, à une époque, les « s » barrés, tout ça, c'était très dans la mode, mais aujourd'hui, au contraire, il faut penser la conjonction entre l'histoire. Dans son manifeste, le comité de vigilance et les usages de l'histoire dit lutter contre tant de mélange entre histoire et mémoire. D'accord. Il y a là un danger, et il y a un danger, je n'incrimine pas là Gérard Noiriel en tant que tel, parce que ses travaux militent pour montrer qu'il est tout à fait conscient de ces dangers, je pense, c'est qu'il y a un danger de réduire la fonction historienne au simple établissement de faits. C'est quelque chose que j'ai pu mesurer au Congrès international des sciences historiques qui s'est tenu à Oslo il y a déjà un moment, vous avez vu, Le retour sur la preuve, c'est tout à fait majeur pour nous historiens par rapport à notre contrat de vérité, mais si on considère que l'histoire, finalement, c'est seulement l'établissement de la preuve, il faut savoir quand même qu'on fait un bond en arrière de plus d'un demi-siècle, sinon un siècle, sur le plan épistémologique, historiographique, etc. Bon. Or, je lis dans le manifeste du comité de vigilance, notre rôle principal consiste à élaborer, à transmettre des connaissances rigoureuses sur le passé. Point. Alors n'oublions pas, n'oublions pas tout l'enrichissement de l'histoire par la mémoire et les aspirations mémorielles de tous ordres qui sont apparues comme libérateurs. Je vous rappelle à quel point on était du côté et quel enrichissement l'histoire on a trouvé quand on défendait les oubliés de l'histoire, les muets de l'histoire, l'histoire des femmes, la mémoire des femmes, la mémoire des Occitans, la mémoire des Bretons, la mémoire des minorités religieuses. La mémoire a en effet fécondé l'histoire, il ne faut quand même pas l'oublier. L'histoire telle qu'on la pense aujourd'hui est une histoire enrichie par les mémoires plurielles, et c'est cette histoire-là qu'il faut porter et transmettre concrètement, enrichie par ces mémoires plurielles et ce pluralisme qui est controversé en effet, et là-dessus, évidemment, une falaise à raison. N'oublions pas que cette fécondation a fait naître une toute autre histoire, celle du tournant historiographique, celle à partir de laquelle un événement n'est pas un dossier clos, mais un événement est, comme le disait Michel de Certeau, ce qu'il devient. C'est-à-dire qu'un événement, il n'est jamais, comme dit Liberté pour l'histoire, il n'est jamais fini, il n'est jamais clos, il est toujours ouvert à des sédimentations de sens, à des appropriations futures. Une histoire des traces narratives, une histoire de la fabrication même de l'histoire, une histoire de l'après-coup. Rappelons l'apport d'un Georges Duby. Rappelons l'apport sur le plan méthodologique et pourtant paraissant dans les années 50 d'un Henri-Irénée Marou, lorsque Henri-Irénée Marou disait que l'histoire c'est grand P sur petit p, c'est-à-dire et non pas grand P plus petit p, c'est une équation du présent sur le passé sur le présent. Rappelons la phrase de Lucien Febvre entrant au Collège de France, et dans sa leçon inaugurale, disant que l'histoire n'est pas du donné, mais du créé. Bon. Ceci pour mettre en avant la subjectivité, l'implication du sujet historien dans son art qui veut fabriquer l'histoire. Il y a donc un risque au nom du repli corporatiste. Il y a donc un risque au nom du repli sur la preuve. Il y a donc un risque de régression historiographique, et je suis totalement les mises en garde sur ce plan dans le numéro d'esprit paru sur Paul Ricoeur récemment de l'historien directeur de multiples collections chez Gallimard et Éric Vigne lorsqu'il écrit tout dans la réaction des historiens à l'égard de ses mémoires semble laisser craindre. Il pense le rapport entre l'histoire et la mémoire sur le mode de la concurrence et non pas d'une dynamique solidaire. C'est cette dynamique solidaire qu'il faut retrouver et qu'il faut retrouver en dépassant cette séparation, cette absolutisation de la séparation entre histoire et mémoire. Évidemment, cette dynamique solidaire n'est pas chose facile. On y reviendra. Un cas concret qu'on peut citer, par exemple, c'est qu'une revue dirigée quand même par quelqu'un comme Jacques Revel, et François Hartog, je ne sais plus si c'est des directeurs, mais une revue comme la revue Enquête a disparu sur la question arménienne et turque, et pour avoir voulu travailler sur une historiographie de cette question, cette revue est morte, parce que ça n'a pas été possible, il y a eu des cases, des interdits, etc. Donc, il faut repartir évidemment de la distinction que vous connaissez tous, de celle d'Alvax, reprise par Nora dans les lieux de mémoire, mais un petit peu absolutisée par Alvax, parce que lorsqu'Alvax faisait la distinction entre histoire et mémoire, il avait tendance à dire que l'histoire ne commençait que la mémoire se terminait, et qu'il y avait forcément un côté totalement refroidi du discours historien par rapport à la mémoire. Aujourd'hui, dans le tournant historiographique et mémoriel actuel, qui peut être enrichissant, j'ai parlé de confusion, mais c'est peut-être aussi un tremplin pour justement accéder à un stade réflexif de l'histoire. Il faut articuler, en fait, ces deux dimensions. Articuler ces deux dimensions et bien prendre conscience que cette distance temporelle nous sépare du passé, ne doit pas être court-circuitée. Elle doit être une ressource de sens. Et là, effectivement, les legs mémoriels, la mémoire collective, est une ressource de sens dans la tradition herméneutique, interprétative, celle représentée par tout le courant herméneutique, mais je citerai là Walter Benjamin, qui a insisté sur cette dimension herméneutique et cette dimension discontinuiste de la temporalité, une temporalité qui ne fonctionne plus sur une base purement téléologique, préconisant, Benjamin, un modèle, je cite, herméneutique, tendant vers l'interprétation des événements, c'est-à-dire vers la mise en lumière de leur sens, mais un sens toujours en train d'être émergent hein, pour les sociétés qui s'en emparent. Hein. Il n'y a pas de sens déjà là et clos. Hein, c'est toujours un sens en là, je dirais que je m'appuierais sur dans cette dialectisation et ce devenir solidaire d'histoire-mémoire sur l'émergence d'une autre histoire. Une histoire que très bien définit Pierre Nora dans les lieux de mémoire sur la fin dans les France, lorsqu'il dit, citation que je répète à foison de manière continue, c'est bien que la pédagogie est de la répétition, mais c'est parce que c'est vraiment fondamental, me semble-t-il, pour comprendre aujourd'hui l'acte de fabrication de l'histoire. La voie est ouverte à une toute autre histoire du Pierre Nora dans les lieux de mémoire. Non plus les déterminants, mais leurs effets. Non plus les actions mémorisées, ni même commémorées, mais la trace de ces actions et le jeu de ces commémorations par les événements. Pas les événements pour eux-mêmes, mais leur construction dans le temps. L'effacement et la résurgence de leur signification. Non le passé tel qu'il s'est passé, mais ses réemplois successifs. Pas la tradition, mais la manière dont elle s'est constituée et transmise. Donc une histoire au second degré. Une histoire qui se nourrit de mémoire. Et là, évidemment, on retrouve une fécondité, et je ne développe pas, sur la question du rapport entre histoire et mémoire, et tous les travaux nous le montrent, que ce soit Henri Rousseau, que ce soit bien d'autres, que c'est Valencé, bien d'autres, de cette fécondité entre histoire et mémoire. Je passe là aux distinctions, puisque je commençais par lui, je terminerai évidemment par lui, par la distinction tout à fait importante pour nous, que représente le livre de Paul Ricoeur, La mémoire d'histoire oubliée, pour penser ce rapport histoire-mémoire. Je m'étonne, en passant, que ce livre qui a été, j'ai pas les chiffres là, on en parlait hier soir, dans mon accouche, je ne vous en rappelle plus, mais je sais que c'est en plusieurs dizaines de milliers de livres. Ce qui, pour un philosophe, faisant paraître un livre dans l'ordre, je parle de la première édition, je ne parle pas de l'édition page. Ce qui, pour l'ordre philosophique, est quand même un exploit, hein. Le livre de Paul Ricoeur a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Il fait figure, quand il sort à l'automne 2000, de best-seller. Voilà. Je m'étonne, tout simplement. C'est vrai que c'est un livre dense, épais, mais je m'étonne qu'il ne soit pas mobilisé dans l'espace public beaucoup plus comme par rapport à son intention, qui était une intention de clarification du débat public, et il n'est pas pris comme ressource, hein, très peu. Et c'est constatable, y compris chez les historiens, et pourtant il s'adresse depuis les années 50, à un véritable dialogue avec les historiens. En effet, Paul Ricoeur fait là un travail de distinction tout à fait majeur, en montrant qu'il n'y a pas de séparation entre ces deux dimensions, mais en même temps qu'il y a distinction de ces deux dimensions. Il met en garde contre, d'un côté, ce qui pourrait être une méfiance trop poussée vis-à-vis des méfaits de la mémoire. La réaction légitime dans son mouvement de repli des historiens auprès de leurs confrères en disant « ils font trop de bruit, ces porteurs de mémoire, et replions-nous sur nous-mêmes. » Cette attitude, même si elle peut avoir sa légitimité, conduit à une sacralisation de la posture historienne par rapport au conflit mémoriel. Sacralisation, posture de surplomb, au nom de qui, au nom de quoi? Le deuxième écueil, le deuxième danger, c'est de recouvrir la pratique historienne par les guerres de mémoire, par les discours de mémoire, par les mémoire, qui là effectivement constitue un danger certain,
Car si on faisait ça, on court-circuiterait l'apport épistémologique de l'histoire, c'est-à-dire que tout le monde fait l'impasse sur le niveau que Ricoeur appelle l'épistémologie, ou ce qu'il appelle l'explication comprendre, qui est l'opération historiographique de l'humain. Il serait court-circuité dans une telle opération où la mémoire se substitue. Mais on ne peut que les penser ensemble. Car que serait dans ces deux dimensions de nature différente qui sont d'un côté la fidélité, de l'autre la vérité? Que serait une vérité sans fidélité?
Et que serait une fidélité sans vérité?
Dans ce parcours, il va conduire Paul Ricoeur de la phénoménologie de la mémoire à une ontologie de la production historique en passant par une épistémologie de l'histoire. Il articule deux traditions qui sont d'une part celle du logos grec, la recherche de la vérité, et celle de la tradition judéo-chrétienne, qui est celle du souviens-toi, qui est celle de la fidélité. Le logos grec, la recherche de vérité, offre le point de départ pour répondre à l'énigme, l'énigme fondamentale qui est celle de la représentation du passé dans la mémoire. Et là, Paul Ricoeur de mobiliser la tradition philosophique, Platon, la question du quoi du souvenir, quand elle est tête, par l'icône, l'image souvenir. La présence à l'esprit d'une chose absente, plus la dimension ajoutée par Aristote, à savoir la référence à une antériorité, à un avoir été. Quelles sont les traces mémorielles de trois ordres? Là, il y a un travail de distinction sur ce qu'est cette mémoire. Dans l'ordre des traces corticales, où le débat, pour les cœurs, par exemple, avec Changeux, des traces psychiques et affectives, où le débat avec Bergson et Freud, le Ricoeur, et dans les traces mémorielles, c'est-à-dire les matériels documentaires, qui est un niveau là. Le troisième niveau de la mémoire montre par lui-même. On ne peut pas totalement séparer ces deux dimensions histoire et mémoire, car ces traces matérielles, mémorielles, sont les mêmes pour les porteurs de mémoire et pour l'histoire. On a là un terreau commun, une base qui fait que on travaille sur ce point, sur la même chose. Cette mémoire, nous montre Paul Ricoeur, est fragile. Elle est fragile parce qu'il y a la mémoire empêchée, la mémoire manipulée, la mémoire commandée. En même temps, et qu'elle est fragile, cette mémoire offre ce que n'offre pas l'histoire. Rappelons que l'histoire est une connaissance au second degré, c'est une connaissance de médiation, c'est une connaissance qui ne peut pas se faire, l'histoire au-dessous ou au vu du public, en direct, comme nous le propose là aussi une candidate à la présidence qui propose des conseils des ministres, en direct. L'historien ne veut pas travailler en direct. Je crois que la regrettable bonne initiative sur le plan de ses bonnes intentions, de libération, de débat de Julie dans Libération, nous montre là les effets pervers, les écueils de ce que serait une histoire en direct, une histoire à l'estomac. En fait, à l'horizon de cette phénoménologie de la mémoire, il y a de la part de Ricoeur l'idée de défendre l'homme capable, le « je peux », le pouvoir se souvenir, l'art d'oublier et le savoir pardonner. Je dis l'art d'oublier car il n'y a pas de confusion. Jamais Paul Ricoeur n'a parlé comme Emmanuel Perret du devoir d'oubli. Ça n'existe pas, sauf des petits propos simplistes comme les constitutions d'Emmanuel Perret sur les abus de mémoire. Il faut évidemment éviter la tyrannie de la mémoire, et sur ce plan, Paul Ricoeur souscrit à l'opération historiographique et à sa valeur critique. Sa valeur critique, il défend là la validité du travail historien vis-à-vis de la mémoire comme reprise critique interne autant qu'externe. Et il faut évidemment là bien distinguer l'opération historiographique comme étant une opération qui n'est pas l'opération de mémoire, et très rapidement, je le rappelle, comment il définit l'opération historiographique comme une réponse au quoi, que s'est-il passé, la phase documentaire de l'archivation, la phase du pourquoi, la phase de l'explication et compréhension, et la phase de l'écriture, de la fabrication de l'histoire elle-même, qu'il appelle la représentation de l'histoire elle-même. Le troisième terme est tout à fait important, mémoire, histoire d'oubli, c'est l'oubli. Et comme le disait Paul Ricoeur, on a souvent oublié l'oubli. Alors, surtout quand on lui a fait le faux procès d'abandonner le devoir de mémoire au profit du travail de mémoire. Double défi de l'histoire, à l'histoire et à la mémoire, que c'est oubli. Et là, Paul Ricoeur fait un distinguo tout à fait intéressant. montrant une certaine positivité de l'oubli. Il n'y a pas plus de la positivité de l'oubli, ce qui montre la négativité que peut-être l'oubli à la fois individuelle et collective irréversible, celle de la perte, l'oubli des façons irréversibles, l'oubli de la disparition d'archives. Mais il y a, dit-il, un oubli de réserve qui préserve. Un oubli qui est la condition même de la mémoire, une condition même de l'histoire, prenant le rappel sur le plan national au XIXe siècle. Eh bien, dans la guerre des mémoires et dans la confrontation entre histoire-mémoire, là, la situation doit être pensée comme situation en tension, comme situation controversable. On pourrait reprendre là les termes que si vous ne connaissez pas, et qui me permet de Falaise, c'est effectivement une situation de tension, une situation aporétique. Et Paul Ricoeur dit l'indécidabilité de la relation de ces deux pôles. La compétition, je le cite, entre la mémoire et l'histoire, entre la fidélité de l'une et la vérité de l'autre, ne peut être tranchée au plan épistémologique. Et c'est là où qui va trancher, vous le direz, c'est pas un comité de vigilance qui va trancher, c'est pas un comité de liberté pour l'histoire, c'est la société elle-même, évidemment. C'est pas la condition pour trancher, c'est pas des pathologies d'auteur. C'est la société elle-même. Mais sur le plan épistémologique, on ne peut pas trancher à l'un ou à l'autre, car il y aura deux légitimités qui sont incommensurables. Je ne vais pas abuser de mon temps et je ne termine pas de vérité. Et je termine en disant que, au-delà de la conjoncture historique actuelle, qui est donc caractérisée, comme je le disais au départ, par la crise des deux catégories métahistoriques, telles que les analyses de Marc Sélect sont d'une part, la tension entre la crise de l'horizon d'attente, qui est une des deux catégories, l'autre étant l'espace d'expérience. On a une tendance donc à on aura appelé les présents étals, c'est-à-dire un espace d'expérience qui se déploie de manière étale et presque anhistorique, avec le télescopage de détemporalité très grave. On rappelle que même le rapport à l'histoire vient aussi de l'altérité. Rappelons l'expérience de Michel de Certeau qui parti pour faire l'histoire de sa propre compagnie. Les jésuites étaient partis à la recherche du même, et notamment lorsque il fait l'histoire de ce premier compagnon d'Ignace de Loyola, il dit « Là, j'étais à la recherche du même, je me suis découvert historique, en butant sur l'altérité, en butant sur l'autre, lorsque il s'est attelé à la tâche de recomposer l'archive de ce jésuite du XVIIe siècle, qu'est Joseph Surin. Et là, il se fait à l'autre, à l'altérité, et donc à l'altération de lui-même. Et là, effectivement, il est devenu l'historien qu'il a été. Donc, il faut préserver ce rapport à un passé qui soit autre, et un langage équivoque pour en rendre compte. Bien, je terminerai donc sur ce que dit Paul Ricoeur, lorsqu'il rappelle la fonction de dette éthique de l'histoire par rapport au passé. Cette crise ouvre, je le disais, peut-être un nouveau régime d'historicité qui n'est plus dans la réalisation du déjà-là, qui n'est plus dans une téléologie historique, mais qui peut être dans un horizon d'attente renouvelé. Et renouvelé par quoi? Renouvelé par la revisitation des possibles non avérés du passé. Aujourd'hui, la richesse de ces questions réouvertes des mémoires plurielles, c'est la possible revisitation du passé, des possibles n'ont pas été avérés du passé. Et cela peut ouvrir à une utopie, à une fonction libératrice, car évidemment, l'issue de la crise ne peut être que dans la reformulation d'un projet collectif. Et cette fonction libératrice, c'est d'empêcher, et là je cite Ricoeur, que l'horizon d'attente le fusionne avec le champ d'expérience. Il faut préserver une place à cet horizon d'attente. C'est vrai pour le destin de tout individu confronté à la finitude. C'est vrai pour toute société confrontée aussi à la finitude. Il faut donc ressourcer l'espérance pour un futur
qui puisse être un futur d'espoir. Merci.